Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Comment mieux démarrer une nouvelle année, je vous le demande, qu'en compagnie d'une voyante? Rassurez-vous, pas une spécialiste de la boule de cristal, non, je pense à une voyante au sens rimbaldien du terme. Une femme qui voue au grand Arthur un culte tellement passionné qu'elle a fini par racheter sa maison natale à Charleville-Mézières. Une trajectoire étonnante pour cette chanteuse punk américaine, à la vie flamboyante, fascinée par notre beau pays et sa littérature, est devenue à son tour une auteure aussi reconnue que respectée. Oui, vous l'avez deviné, je parle bien sûr de l'inestimable Patti Smith dont je croise la route depuis des années et avec qui nous allons passer une heure sur le carrefour, disons même le rond-point, de la pop culture qu'est Popopop. Et comment mieux démarrer cette année, je vous le redemande, qu'en ouvrant grand les fenêtres de la poésie dans l'atmosphère confinée de notre bien-aimée maison ronde et qui ne l'est jamais autant ronde qu'en ces lendemains de libations festives. Bonne année à vous tous donc et renouvelons la résolution qui est la nôtre depuis le tout premier Popopop, ne recevoir que des gens que l'on aime et qui nous font rêver. C'est peu dire que Patti Smith répond aux deux critères.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux, qui me semble tout à fait d'aplomb pour une Picarde en ce 1er janvier.
Tout à fait. Bonjour Antoine. Bonne année Antoine.
Charline, mais oui, mais là très très fraîche.
Ma double
même.
Fois. Hein,
au menu également de l'émission, Loïc Prigent, qui viendra nous parler de la créatrice belge qui fascine tant Patti Smith, Anne de Mellemeester. Cours de diction tout à l'heure. Mais avant ça, quand on reçoit une légende de la pop culture, eh bien on lui pose une question qui en impose. Et cette question, c'est... For you, Patti Smith, what is it, the pop culture?
It's la pop culture, c'est un ballon.
That you have a pin and you
vous avez une aiguille et vous piquez le ballon. Il explose.
And then
et puis,
it forms again.
Il se regonfle.
And you take a pin,
vous prenez une aiguille,
and you prick it,
vous
and
piquez
it
le ballon,
explodes,
il explose
and it forms again.
Et il se regonfle.
So, what I'm saying
ce que je veux dire,
pop culture,
c'est que la pop culture, chaque génération la recrée.
Et on parle de pop, de culture et de pop culture avec Patti Smith dans Pop Pop Pop, juste après le morceau de Williams Yvelin qui s'appelle Something Beautiful.
Something beautiful. Something beautiful. You make me wanna drink from the deepest well, build towers of steel.
You make me wanna
cut down a million trees, burn fiery wheels.
You make me wanna
out the
Something Beautiful est paradoxalement un titre de William Zivilin. Ben oui, c'est à retrouver sur l'album Stone Digger. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une légende de la pop culture, comme je le disais en intro. Mais soyons plus précis avec son pop portrait. Alors oui, pop portrait, ben c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charlene Ron.
Mais c'est ça, le démarrage est toujours compliqué.
C'est le 1er janvier.
Aujourd'hui, nous recevons la marraine du mouvement punk. Alors je sais que le parrainage d'un enfant nous engage vaguement à l'achat d'une médaille et à la récurrence d'un paquet sous le sapin jusqu'à la majorité. Mais marraine du mouvement punk, c'est drôlement plus compliqué. Il faut une grande capacité à inspirer, être engagé, savoir écrire, savoir chanter, savoir peindre, savoir monter sur scène, être sensible à la poésie. Et bizarrement, malgré le mot d'ordre « No Future », durer. Patti Smith coche toutes ses cases et possède toutes ses qualités. En témoignent tous ses albums depuis Horses en 1975, son soutien au Green Party, à la manifestation Peace One Day ou au Pussy Riot, ses amis du présent et du passé, Mapplethorpe ou encore Bruce Springsteen.
Springsteen.
Oh, j'y arriverai jamais.
Read my lips. Springsteen.
Springsteen. Voilà, ses écrits, parmi lesquels Just Kids et M-Train, et aujourd'hui donc Dévotion, le genre de dévotion qu'on doit à sa marraine la fée.
Merci Charlene. Patti Smith est dans Pop Pop Pop, et quand on a une légende de la pop culture, eh bien on lui demande ce qu'elle lit, ce qu'elle regarde et ce qu'elle écoute. Passons donc à sa liste.
Hop.
Quel est le livre de référence pour vous, le livre auquel vous revenez toujours?
Pinocchio. And it's, you know, perfect.
Et puis c'est le livre parfait.
In the end, it's
parce qu'en fin de compte,
a little book,
c'est un petit ouvrage
about, identity,
qui parle d'identité,
forgiveness,
de pardon,
evolution,
d'éducation
and resurrection.
Et de résurrection.
The perfect book.
C'est le livre parfait.
Quelle est la chanson que vous avez le plus souvent en tête?
Well, I don't know what comes most often, but I just.
C'est peut-être pas celle qui me vient le plus souvent, mais là, en faisant vagabonder mon esprit, je vois ce qui me vient, et c'est Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Peut-être parce que il y a une ambiguïté dans la chanson. Elle annonce un certain désenchantement dans la société, mais aussi c'est une critique, c'est une chanson qui est une mise en garde. Elle est intéressante parce qu'à l'écoute, on a l'impression d'être un de ces vagabonds qu'il décrit. Mais on se rend compte qu'il dénigre ces gens qui ont tout eu à un moment. Comme j'ai dit, c'est la chanson qui m'est passée par la tête. Même si Jimi Hendrix, il est juste après.
Let your freak flag fly.
Patti, j'en ai presque fini. J'ai besoin que vous me donniez le film que vous revoyez avec le plus de plaisir.
Oh, well, there's too many.
Il y en a trop.
But if you want to talk about, how about Pierrot le Fou?
Et si je répondais Pierrot le Fou? J'aime beaucoup.
Pourquoi t'as l'air triste?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments.
Mais c'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments.
Not even my favorite, but
pas
just
mon film
the one
préféré, mais c'est celui
in
auquel je pense.
A good film to see over and
un
over.
Film à revoir encore Pierrot et encore, Pierrot le Fou.
And it was just Jean-Luc
et puis c'était
birthday.
L'anniversaire de Jean-Luc Godard, je crois.
You know, nice to,
c'est bien
nice to, send a salute to
de
the
saluer
master.
Le maître.
And, yeah, Pierrot le Fou,
Pierrot le Fou.
A good one.
C'est bien.
I will tell you the film that I think has the best message.
Mais je vais vous dire le film qui a pour moi le plus beau message à donner.
Andrei Rublev.
C'est Andrei Rublev
Tarkovsky.
De Tarkovsky.
Because it's a long film.
C'est un film très long.
Within it,
dans lequel un peintre abandonne sa production d'icônes parce qu'il veut protester, il veut devenir moine, il veut vivre dans le silence, il est révolté, il en a marre de l'art. Et puis il y a le jeune garçon qui fabrique des cloches. C'est un maître en la matière, mais il se déprécie lui-même. Il se trouve bon à rien. Il va abandonner et peut-être même se suicider. Et à la fin de ce film sublime, ce moine et ce jeune garçon sont assis ensemble. Tout paraît si lugubre. Il ne va y avoir que la guerre, la destruction, le suicide, la mort. Et Andrei Rublev dit: allez, vis, viens avec moi. Tu fabriqueras des cloches, je peindrai des icônes. Ils feront, à la fin, ce pourquoi ils étaient destinés. On traverse la vie, on est tiraillé de ci, de là, on doute de nous-mêmes, comme eux, d'ailleurs, doutent. Mais la vie est fantastique. Quand vous savez ce pourquoi vous êtes là et que vous pouvez le dire, c'est ça que je vais faire, bordel. Tu fabriqueras des cloches, je peindrai des icônes. Et on peut remplacer par « Tu sauveras la planète et moi, j'élèverai des poulets ».
Et juste la toute dernière question, si vous regardez la télévision, est-ce qu'il y a une série télévisée qui vous plaît particulièrement ?
Je regarde surtout des séries télé qui parfois s'arrêtent et j'en tombe amoureuse et puis c'est trop tard. Ma série préférée en français, comment on dit en français ? Profilage. J'adore. Je l'adore, elle. Je regarde cette série depuis des années. Quand je passe à Paris, et là, ce jeudi, il passe 6 épisodes à la suite. Je comprends vraiment pas tout, parce que je parle pas le français, puis l'intrigue, c'est vraiment compliqué. J'ai jamais bien compris ce que cette série raconte, mais je l'adore. Je l'adore, elle, et son petit manteau violet, elle est géniale, elle est trop mignonne. J'aime cette série. J'aime les séries policières. Pas la violence, j'aime entrer dans l'esprit du détective. J'aime Endeavor en ce moment. C'est une de mes séries préférées. Vous savez, c'est la jeunesse de l'inspecteur Morse. En Amérique, on a en ce moment Sharp Objects, qui est très bien, avec Amy Adams, qui est une actrice fantastique.
Donc, je gravite vers...
Je regarde plutôt des séries psychologiques. J'aime pas la violence. C'est pas le crime qui m'intéresse, et même la résolution du crime, j'aime suivre l'enquête du détective. Et c'est pour ça que je regarde cette série française policière depuis des lustres sans rien comprendre. Parce que je vois au moins leur intelligence en action. Maintenant, vous le savez, je ne comprends rien à rien.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Et en voilà un scoop pop, 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 la série préférée de Patti Smith. Et donc, profilage. Bien. Avant de continuer cet entretien avec Patti Smith, écoutons un morceau. Pastime Paradise, par exemple.
Paradise, been spending most of their lives living in a pastime.
Pastime Paradise. C'était en 2007 sur l'album 12 de Patti Smith qui nous a accordé un entretien.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
J'étais il y a quelques jours à New York dans la loge de Bruce Springsteen au Walter Kier Theater. Et sur le grand miroir devant lequel il se prépare était accroché un tas de photos. Johnny Cash, Paul McCartney, John Lennon et vous-même. Ce qu'il appelle ses ancêtres, ses talismans. D'abord, est-ce que ça vous fait plaisir de savoir que vous faites partie de ceux qui rassurent Bruce avant son entrée en scène ?
Je trouve ça très gentil. C'est aussi l'idée du porte-bonheur ancestral. C'est quelque chose qu'on fait tous. Je parlais de ça avec Allen Ginsberg. Lui, Allen Ginsberg, il avait comme porte-bonheur William Blake et Walt Whitman. On en a donc tous. Moi, j'ai les miens. Par exemple, c'est John Coltrane. Quand j'étais jeune, c'était toujours Rimbaud. Et Jeanne Moreau. Jean Genet, souvent des Français. Jean-Luc Godard. J'ai pas les mêmes porte-bonheur que Bruce, mais on en a tous. Bien sûr, je suis heureuse d'être le porte-bonheur de qui que ce soit, ça fait plaisir. Tant que c'est pas pour Donald Trump, je veux pas être son porte-bonheur. Je veux porter malheur.
Pardonnez-moi, Patti Smith, mais quel effet ça vous fait d'avoir une voix d'homme en français ?
Ah, mais j'aime les hommes. Je suis contente d'avoir une voix française masculine. J'y pense même pas. Depuis mon enfance, je ne suis pas du tout sexiste. Nous sommes ici, assis. Clairement, il y a deux femmes et deux hommes, mais je nous vois comme quatre êtres humains.
Enfin, quatre moins Harold, le traducteur. Alors, des photos, il y en a à nouveau dans Dévotion, des photos noires et blancs, comme d'habitude. Et c'est presque devenu une marque de fabrique dans vos livres. Pourquoi est-ce que vous tenez tellement à avoir des photos dans vos textes ?
Ça doit remonter à il y a longtemps, quand j'étais jeune. J'ai lu Nadja d'André Breton. Et pour moi, adolescente, ce récit mêlé d'illustrations, c'était merveilleux. Et toujours, j'imaginais qu'un jour j'écrirais un tel livre. Tous mes livres dans les années 70, ils avaient des photos. À cette époque, c'était des photos que je prenais moi-même, j'en prenais beaucoup. Mais cette sensibilité, elle vient vraiment de Nadja. Bien sûr, j'aimais les livres de Siebold. Il avait beaucoup de photos dans son texte aussi, et j'admirais ça. Mais vraiment, c'est ce petit livre, Nadja, qui m'a aidé à trouver la formule pour mes ouvrages.
Did you have a question? Pour en revenir à la dévotion, ce n'est pas à proprement parler un livre sur le processus d'écriture, mais c'est un livre qui illustre le processus d'écriture. Est-ce que, quand vous écrivez, vous vous livrez systématiquement à cet exercice d'analyse ou c'était uniquement pour ce projet?
Mais moi, je ne m'auto-analyse jamais. C'est une des raisons pour lesquelles ce livre, il est tel qu'il est. L'université de Yale m'avait demandé d'écrire un essai sur l'écriture, mais moi, je ne suis pas du tout essayiste, ni une personne qui s'analyse. Alors vraiment, je ne savais pas comment m'y prendre. Mais étant en France, à Paris ou à Sète, ou à Lourmarin, où je rendais visite à la famille de Camus, par accident, j'ai trouvé comment résoudre mon problème. La solution, c'était pas de parler d'écriture, mais d'écrire. D'écrire tout simplement. La première partie raconte comment mon esprit fonctionne, quand je vagabonde, ce qui me passe par la tête, comme dans un journal intime. La deuxième partie, c'est vraiment de l'écriture, c'est une fiction. Et le lecteur, avec ce journal et cette fiction, peut voir comment ce qui m'arrive à Paris, quand je déjeune, quand je visite, se retrouve dans la fiction. Et la dernière partie, écrite pendant ma visite chez les Camus, résume le tout. Résume pourquoi j'écris. Et donc vous avez bien raison. Ce livre illustre plutôt comment j'écris, plutôt qu'il ne l'explique. Parce qu'il y a tant de gens qui ont écrit de belles choses sur le processus d'écriture. Je voulais faire autre chose, qui j'espère satisfera le lecteur. J'ajoute que ce livre, il est intéressant pour moi à lire, car jamais je n'ai couché sur le papier quoi que ce soit sur mon propre fonctionnement. Et c'est très intéressant, je vois une patineuse à la télé dans une chambre d'hôtel parisienne. Et puis, je lis Simone Weil dans un café parisien. Et puis, j'écris une histoire dans un train de Paris à Sète. Et puis, j'écris des notes, mes observations à Lourmarin. Et tout ça en peu de temps, sur une période de 2 semaines, très concentrée. Je relis mes carnets et je découvre avec étonnement combien je suis influencé dans ma fiction par ce que j'avais vu à la télé, par un film que j'ai découvert, par un livre que je lisais. Tout ça s'est glissé très vite dans mon récit de fiction. Ça m'intéresse grandement. Et je suis tellement heureuse que la France ait résolu mon problème de répondre à la commande d'une grande université américaine.
Patty Smith, une nouvelle fois dans Dévotion, on retrouve votre amour pour la France et les écrivains français, de votre chouchou Rimbaud à Marguerite Duras, en passant par Jean Genet, Modiano, Albert Camus, pour ne citer qu'eux. Est-ce que vous trouvez une qualité particulière aux écrivains français ?
Toujours, je me suis senti proche de la littérature française. Gamine, je lisais Nerval. Et Baudelaire, même Maigret, en fait, j'adorais les enquêtes de Maigret. Je ne sais pas pourquoi. Camus, c'était mon héros, bien sûr, quand j'étais jeune. Mais je ne parle que l'anglais. Et la plupart des romans que je lis sont des traductions. Il y a quelque chose dans le rythme de la langue française. Ce n'est pas une question de sensibilité française ou d'imaginaire, c'est le rythme qui, même dans les traductions, me parle. C'est à la fois la complexité de la pensée et la fluidité des mots. Et ces mots, on les suit comme le cours d'une rivière. Parfois, je me trouve devant une traduction lourdingue d'un roman russe et ça m'endort. Mais j'aime toute la littérature. Je lis beaucoup de romans japonais. Mais principalement, je lis des traductions. Et donc, je ne sais pas. Je suis désolé de ne pas mieux vous répondre. C'est la sensibilité, c'est le rythme de la langue, et puis l'atmosphère qu'on y trouve. Moi, je peux relire Patrick Modiano encore et encore. J'ai lu La mort heureuse de Camus peut-être 10 fois, parce qu'on pénètre une atmosphère. Parfois, je lis un roman très intéressant, l'histoire est épatante, mais je dois m'en écarter à un moment. Il y a quelque chose dans ces romans, dans les livres de Nerval, qui vous hante. Je peux entrer dans cette atmosphère. Cette atmosphère presque onirique, comme c'est Genet. On sent bien qu'on suit un récit autobiographique, mais on suit surtout une imagination. Chez Camus, c'est autobiographique, mais c'est aussi magnifié par l'imaginaire. C'est peut-être la réponse. Pardon, c'était long.
On l'aura compris, pour vous, Patty Smith, l'inspiration est partout. Est-ce qu'il en est de même pour la poésie ? Est-ce que vous arrivez à la trouver partout ?
J'imagine qu'on peut dire que la poésie est partout, oui, Dieu est partout, l'amour est partout. Mais la poésie, c'est l'exercice le plus difficile de tout ce que je fais. Et moi, je travaille beaucoup de formes. Je prends des photos, j'écris, je fais des spectacles. J'écris de la poésie depuis que je suis très jeune. J'imaginais que je serais un jour une poétesse. C'était ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Je n'imaginais pas le moins du monde ce que c'est et que c'est l'art le plus difficile. Le plus difficile à comprendre parfois. Le plus difficile à écrire, à la hauteur où on peut se dire poète. C'est parce que c'est presque parfois un langage secret, la poésie. Tant de choses sont cryptées dans un seul poème. Quand je lis mes propres poèmes, j'ai pitié pour mes traducteurs. Il y a tant d'argot, tant de non-dits, dans l'espace, entre les mots. Il faudrait avoir un volcan à la place du cerveau ou un don pour la télépathie pour vraiment embrasser le texte. Et puis, quand on écrit de la poésie, on entre si profondément dans l'écriture que parfois le poète lui-même ne saurait traduire ce qu'il a écrit. Que parfois, une phrase simple évoque 1000 choses. C'est comme le cubisme. Donc oui, il y a peut-être de la poésie en toute chose, mais elle est difficile à saisir.
Baptiste Smith, dans Dévotion, il est aussi question de Paris, dans lequel vous adorez déambuler, boire des cafés, croiser des statues. Paris que vous connaissez bien, mais sur lequel plane ces jours-ci un léger parfum d'insurrection. Est-ce que vous avez déjà vu Paris en colère ?
Je suis venu à Paris pour la première fois en 1969. C'était la fin d'une autre insurrection à Paris. Aujourd'hui, la colère est différente. J'ai vu la colère dans beaucoup de villes du monde. J'ai vécu à Détroit pendant 16 ans. J'ai vu et j'ai vécu des choses en Amérique, des émeutes, des manifestations. Parfois, elles avaient beaucoup de sens. Elles ouvraient la voie à des solutions positives. Et parfois, c'était juste l'écho d'une déception. Et elles devenaient inutilement perturbatrices. Je ne vois donc rien de si inhabituel ici par rapport à ailleurs dans le monde. Mais je regrette que la destruction devienne l'expression dominante de la révolte. Pour moi, c'est quand une foule se rassemble, une foule nombreuse, qu'elle a une importance et un sens. C'est peut-être parce que j'habite en Amérique et sous un président qui est un petit tyran. Alors souvent ce genre de réaction me paraît trop proche de ce que je vis dans mon pays, cette brutalité dans l'action. Je voudrais voir de grands rassemblements pour des causes qui ont du sens. Aujourd'hui, avec tous nos problèmes environnementaux, avec le changement climatique, avec tous ces enfants réfugiés et qui ont faim suite à la guerre, les humains souffrent aujourd'hui, beaucoup. Et dans les manifestations, moi, je voudrais voir les gens se révolter contre ces catastrophes mondiales-là. C'est de ça dont on a besoin. Que des millions de gens prennent la rue parce que l'eau que nous consommons est menacée. Le manque d'eau C'est une menace sur nos enfants, sur leur avenir, sur les espèces animales qui sont menacées, l'abeille qui butine et dont nous avons tellement besoin est en voie d'extinction si nous n'agissons pas. Il y a bien des sujets pour se battre et voilà, moi, ce qui me concerne. Des sujets qui sont essentiels pour toute l'humanité. Voilà. Je
ne
réponds pas précisément à votre question. Mais moi, je suis ici à Paris pour travailler. Je
ne
connais pas tout le contexte des événements ici à Paris. Mais je sais qu'il se passe des choses partout dans le monde. Et que nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui motive ces vagues de violence? Ces motivations-là, est-ce qu'elles valent le coût de cette violence? Et je
ne
peux pas répondre en ce qui concerne Paris. J'aime Paris, mais je reste une Américaine. Et je ne veux pas juger de la situation dans un autre pays. Encore une fois, mon président...
Non,
ne traduisez pas ça. C'est pas mon président. Le président des États-Unis, il aime juger rapidement ce qui se passe à l'étranger, dans les villes et à Paris. Et moi, je ne suis pas comme lui.
Bien. Pop break dans ce pop-pop-pop en compagnie de Patti Smith pour lancer les news.
Petite remise à niveau, révisez votre pop culture en cette rentrée des classes, histoire de se remettre dans le grand bain, et ce grâce à un jeu signé Rokirama. 500 questions de cinéma popcorn. Allez, je vous teste en direct, Antoine Mou, je ne vous ai pas prévenu, c'est comme ça. J'ai pris la catégorie action et aventure parce que je sais que c'est un peu votre truc, patron. C'est parti. Quelle discipline pratiquent les héros de Point Break?
Surf.
Oh, bien joué. Quels sont les prénoms de Tango et Cash dans le film Tango et Cash?
Jean-Claude et Marc.
Pas loin, Raymond et Gabriel. C'est vraiment...
C'est pas très loin.
Et pour terminer, qui réalise The Last Action Hero en 1993?
Ah, je l'ai sur le bout de ma grosse langue. C'est pas John John McTiernan.
Oui, John bien McTiernan. Joué. Vous êtes imprenable parce que toutes les réponses et toutes les questions sont donc dans ce jeu Rokirama.
Un très très beau livre également à signaler pour les amoureux de cheval et de photos. Oui, un bel ouvrage sur l'Académie équestre de Versailles signé Koto Bolofo. C'est un photographe sud-africain exilé en Angleterre et régulièrement accueilli par la célèbre Académie. Et oui, pour ne rien gâcher, le livre est préfacé par Bartabas lui-même et c'est édité chez Actes Sud.
Vous rêvez de savoir ce que font vos animaux domestiques en votre absence?
Non.
Eh bien, c'était déjà la question à laquelle répondait le dessin animé Comme des bêtes, signé Chris Renaud. Voici la suite, Introducing Pompon, lapin super-héros. Enfin, c'est son ambition.
Yann, bonjour, New York!
Pompon, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu crois que je fais? Des trucs de super-héros, tiens. Fuit.
Je déclare la réunion des amis animaux des super-héros ouverte.
Tout d'abord... Bienvenue à Tonnerre Blanc, de retour d'un séjour au lave-linge.
Il y a été envoyé en compagnie d'un doudou rouge. Il répondra donc désormais au nom de... Tonnerre Rose. Perso, j'adore ce nouveau look.
Comme des bêtes 2, ça sortira le 31 juillet sur les écrans.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oh, vous êtes un lapin.
Non,
Stuart
vous n'avez pas
Little.
Me laisser tout seul, mais oui, Stuart Little, bien sûr.
Mais quel âge elle a, cette souris, maintenant?
Oh, elle est très vieille.
Ouais, oui. Donc, elle a plus cette voix-là.
Elle court toujours très vite.
Merci, Charline. On continue à parler de Patti Smith avec Patti Smith, juste après un morceau de Patti Smith, non?
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et vous venez d'entendre Because the Night, le morceau de Patti Smith, en retour avec une légende de la pop culture, Patti qui nous a accordé une interview.
Vous avez écrit de la fiction à nouveau avec Devotion, comme vous l'avez fait avec M-Train, par exemple. Est-ce que ça vous accorde une bien plus grande liberté que la non-fiction, comme avec Just Kids. Et au final, qu'est-ce que vous préférez ou est-ce que vous prenez le plus de plaisir à écrire?
Well, I never expected to write non-fiction.
Jamais j'aurais pensé écrire de la non-fiction. J'ai pas beaucoup publié, mais ça a surtout été de la fiction. Je n'ai écrit Just Kids que parce que Robert Mapplethorpe me l'avait demandé la veille de sa mort. Il m'a fallu 20 ans pour y arriver. J'avais jamais écrit un ouvrage non romanesque. L'imagination y tient une place, mais il y a l'énorme responsabilité de la vérité historique, de la chronologie, de la description exacte de New York à l'époque, notre relation, la personnalité de Robert, son œuvre, les gens qui nous entouraient. Quelle responsabilité! Alors en écrivant M-Train, j'ai voulu écrire un livre irresponsable, sans intrigue, sans chronologie. J'écrivais au fil de la plume. Mais ça restait de la non-fiction principalement, parce que c'est beaucoup de souvenirs. Ce sont des rêves qui pénètrent la réalité. Je viens de terminer un livre. C'est 30%, 40% de non-fiction et 60% de fiction. Ça m'intéresse beaucoup, je crois qu'on appelle ça ici l'autofiction. Voilà ce que je préfère écrire. J'aime écrire des histoires, comme dans Devotion, c'est de la fiction pure, mais j'ai envie d'y introduire et d'y revenir moi-même par les allées et venues de mon imagination. Car c'est comme ça que je suis. Et c'est pour ça aussi que j'adore la littérature française et la littérature japonaise du XXe siècle, qui bien sûr doit beaucoup à la littérature française. J'apprécie ce qu'on appelle donc l'autofiction. Vous y suivez le narrateur, comme Genet, et vous réalisez que que beaucoup de choses sont inspirées par la réalité. Mais on peut aussi la lire comme de la fiction, et c'est vraiment le genre d'écriture que je préfère. Naturellement, ça rend les éditeurs américains dingues. Parce que c'est une corde raide. Ils ne savent pas comment le vendre. Qu'est-ce que je vais dire au libraire? C'est de la fiction? C'est de la non-fiction? Mais c'est de la littérature. Il vous faut vraiment que ce soit de la fiction, de la non-fiction? Ici, c'est beaucoup plus facile pour moi. Gallimard ne m'a jamais demandé si c'était de la fiction ou de la non-fiction. Il publie le texte, c'est tout. Et j'aime ça, je n'ai pas besoin de dire ce que c'est.
Thanks a lot, Patty.
You're welcome.
Merci, Patty Smith, de nous avoir accordé cet entretien. On continue ce pop-up 100% Patty Smith avec notre chroniqueur Loïc Prigent. Loïc, de quoi allez-vous donc nous parler?
De Patty Smith.
Ah, de Patty
Bonne
Smith.
Année, Loïc.
Bonne mais année. Bonne année. Vous avez très bonne mine, vous n'avez rien fait hier soir, en fait.
On est plus frais que vous. Hein.
Je ne suis pas couché. Moi. C'est les fringues d'hier et d'avant-hier que je porte.
Ça se sent.
Voilà.
Allez-y, Loïc.
Patty Smith, c'est aussi une icône de mode. Une icône de mode.
Comme de cône.
Parce qu'elle a inspiré notamment une créatrice qui s'appelle Anne de Meulemeester.
Répétez-moi ça, s'il vous plaît.
Anne de Meulemeester.
De Meulemeester.
Voilà. Mm-hmm. Quand vous savez appeler le nom de famille de Meulemeester, c'est que vous avez votre diplôme de journalisme de mode.
D'accord.
En gros. C'est une créatrice belge, fantastique, complètement mythique, ultra respectée, qui voue un culte à Patty Smith. Mm-hmm. La couverture de l'album Horses de Patty Smith, photographié par Robert Mapplethorpe, mm-hmm. En fait, c'est la base de toute l'esthétique d'Anne de Meulemeester.
Ah, c'est très simple, quoi. Mm. Très épuré.
Voilà. Les deux femmes sont devenues amies, même collaboratrices, puisque Patty Smith a défilé pour Anne de Meulemeester.
C'est très aimable.
Défilé comme mannequin. Mm. Elle a écrit des poèmes, c'est une vraie collaboration. Mm-hmm. Et Anne de Meulemeester, elle n'a jamais fait de mode pour l'argent, mais pour la beauté.
Oh.
Elle a déclaré, moi je n'ai jamais pensé à l'argent. Elle a une voix très douce avec l'accent flamand.
C'est quoi l'accent flamand, Loïc?
Le 1er janvier, il ne faut pas faire un accent flamand, c'est interdit par plein de lois européennes.
Ok, bah continuez.
Voilà. Il fallait faire du business pour pouvoir continuer, mais ce n'était pas mon point de départ. Mon point de départ, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les gens, pour créer plus de beauté, non seulement dans le vêtement, mais aussi dans l'âme. Comment je peux rendre ce monde un peu plus beau.
C'est tellement beau, Loïc, c'est magnifique, on démarre l'année sur les chapeaux de roue.
En 2013, Anne de Meulemeester a écrit une lettre manuscrite disant « J'arrête tout ». Mais comme la boîte embauchait quand même 100 personnes, ça continue
quand même, donc.
Avec un nouveau créateur qui s'appelle Sébastien Meunier, mais la griffe s'appelle toujours Anne de Meulemeester.
Trop facile à dire, Sébastien Meunier.
De Meulemeester.
Oui, c'est vrai que c'est décevant par rapport à de Meulemeester. Et donc Anne de Meulemeester, ça, c'est toujours la même esthétique, très Patty Smith, noir, 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 toujours noir.
Ah, noir, c'est noir.
Une femme Rimbaud, une femme en noir avec des plumes, entourée de mecs assez filiformes, qui ont un peu trop écouté le Velvet Underground et oublié de manger.
Ils sont drogués, c'est ça.
Voilà. Alors pour les journalistes de mode, décrire le travail d'Anne de Meulemeester, c'est une gageure parce que c'est toujours noir, il y a toujours des plumes, c'est toujours terriblement poétique et c'est très, comment dire, cohérent.
Bah oui. Donc c'est toujours pareil.
J'ai pas dit que c'est voilà. Mais oui. Non, on dit pas c'est pareil.
On dit pas ça.
On dit,
non,
c'est cohérent.
Ah pardon, c'est cohérent. Oui.
Donc il faut réussir à bien décrire ça.
D'accord.
Donc tu dis pas c'est tout noir, tu dis avec son noir intégral et intègre, elle resserre le champ des possibles pour l'hiver prochain. Ici, tout participe à creuser le sillon à part de cette maison belge.
C'est bien.
C'est pas mal, hein.
Ah, c'est bien.
C'est tout noir.
C'est mouvant. Oui.
Voilà. Tu dis pas c'est blanc, tu dis c'est blanc dépouillé.
Ah oui.
Okay. Parce que blanc, ce serait. Tu vois.
C'est banal.
C'est pas un peu pléonastique, un blanc dépouillé.
Il y a du blanc chargé,
c'est ça. Il y a des blancs noirs. Hein.
Ah,
j'imagine.
Je connais pas. Alors,
tu dis pas une veste en cuir noir. Tu dis une veste en peau lourde, débarrassée de couleurs, pour privilégier un nocturne ton sur ton, distillé avec grâce, et qui s'offre aux clientes comme un compagnonnage intime et subtil.
C'est magnifique.
Là où moi j'aurais dit un perfecto, c'est quand même dingue.
Non, et là c'est un perfecto qui va te durer 15 ans ou toute ta vie.
Si tu n'as pas 15 ans, c'est pas un perfecto.
Non. Tu dis pas assez poétique et noir, tu dis on observe une tension aiguisée, un trouble flamand, du désir tapis dans l'ombre, des songes et des cauchemars traduits en vêtements.
Il y a beaucoup de choses tapis dans l'ombre. Souvent,
Tu dis pas les mannequins sont très minces, tu dis les silhouettes sont étirées comme des sculptures de Giacometti. Tu dis pas c'est vraiment corbeau, tu dis sans le moindre imprimé, jouant sur une féminité trouble, Anne de Meulemeester oscille entre poésie et brutalité et cultive son mystère avec une extrême sensualité.
Ouais. C'est bien. Oui, moi, j'aurais dit un truc animal, mais non, en fait.
Non, ça aurait été trop simple.
Vulgaire.
Les mots, ça compte.
Tu dis pas que c'est répétitif, parce que justement, c'est ça qui est beau, qu'il faut que ce soit fidèle à la formule. Donc, tu écris, styliste d'une permanence rare, elle démontre une abnégation admirable à notre époque où les directeurs artistiques oublient parfois leur code.
Ben oui. On le rappellera jamais assez.
Et tu dis pas c'est des fringues pour un dandy, tu dis ces chevaliers d'Éon défroqués dans leurs pantalons un peu courts aux ourlets de tulle et leurs chemises en popeline se disloquant en ruban, dans leurs queues de pie croisées, leurs trench froissés et leurs peignoirs en soie à rayures violets et noirs nous donnent envie de récidiver avec les plaisirs sombres.
Ça, c'est des gens qui sortaient de Jour de l'An aussi. Qui ont
je pense.
Ça.
Ouais, on dirait un film de Marc Dorcel aussi.
Ah ouais, c'est pas faux. Mmh.
Vous pouvez me redire le nom de...
Anne de Melemester.
Anne de Melemester.
Ouais, Anne de Melemester. En mode.
Anne de Melemester.
Si vous aimez la musique de Patti Smith, ouais. Ben, vous pouvez vous habiller direct en Anne de Melemester.
Merci Loïc Prigent. Bon, on papote, mais il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission et j'y vais de ce pas. Ça. Non, mais... J'hallucine. Henri, mon cochon, en after à la cave. Oui, bon. J'ai pas le temps, mais on réglera ça plus tard. Hein. En attendant, moi j'ai envie de m'écouter un petit Johnny. Tiens, les culs par exemple.
Qu'il devienne un grand, combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les dures leçons de la vie. Oui, les coups de l'amour qui s'en va, les coups qui en font un soldat, les coups quand il vous arrive. Oh oui, oui, ça fait. Vivre, oh oui, oui, ça fait mal. Aujourd'hui, je sais que l'on n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo, et puis ce qui voudrait vous voir un jour KO. Oh oui, les coups, un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Un coup de bonheur qui vient au bon moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Plus les coups sont durs et plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se défend. Oh oui, les coups ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups quand ils vous arrivent. Les coups, ouais, ça fait mal. Ouais, les coups, ah, 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 ah. Ouais, les coups, ah, ah, ah.
Johnny Hallyday, les culs, c'était en 66 sur l'album Cheveux longs, idées courtes.
Non, idées curtes.
Idées curtes, oui, vous avez raison, Charline. Merci, Patti Smith, pour cet entretien. Je rappelle que Dévotion, votre nouveau livre, est édité chez Gallimard, qu'il est recommandé évidemment par Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain gratte-moi l'anus, à la réalisation, à la technique, Pierre Faucillon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Restal, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, Colin Cruel, notre stagiaire, et Harold Manning à la traduction. Demain dans Pop Pop Pop, eux. Le flash. Le groupe Minuit et Hervé Bourris, l'auteur du livre La French Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos comment survivre à la gueule de bois sur YouTube, abonnez-vous. à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.